chantait de bon matin quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins. À bicyclette, bicyclette, bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
Bonjour et bienvenue à tous sur votre antenne. Il est l'heure, Monseigneur, sur Radio G 101.5. Alors aujourd'hui, il y a de la bonne humeur dans le studio. On sent que c'est le printemps. Il y a Jean-Jacques qui est avec nous. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Josiane.
Bonjour.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour.
Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour Ricardo.
Bonjour.
Et le meilleur pour la fin. Alors déjà, faut signaler que Ricardo est à l'heure cette semaine. Et on va dire aussi bonjour à Valentine qui nous rejoint. Elle était partie au Canada l'an dernier. Elle enregistre avec nous. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Valentine.
Bonjour à tous.
Bonjour. Cette semaine, comme d'habitude, on doit découvrir un personnage mystère. Alors je suis le seul autour de la table à le savoir. Le premier indice, je vous le fais en chanson, c'est un prénom. Voilà, on écoute tout de suite Thomas Dutronc dans une reprise de Johnny Hallyday. A tout de suite.
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. C'était ma peine, force à de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Dix ans de chaîne, cent vingt le jour. C'était ma peine, force à de l'amour. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné.
C'était Thomas Dutronc avec la chanson Gabriel, une célèbre chanson de Johnny Hallyday. Alors, c'est des indices qui devraient vous parler un petit peu. Là, c'est le prénom Gabriel au féminin. Voilà. L'indice supplémentaire que je peux vous donner, c'est que c'est un personnage mystère né en Anjou. Et c'est ça que j'ai découvert, moi, pour ma part. Voilà, à Saumur, plus précisément. Je vous donne l'année ou je vous donne pas l'année ?
Ouais, l'année. Allez. Ouais, l'année.
Alors, c'est en 1883 qu'elle est née. On en dit un tout petit peu plus tout à l'heure. Bon, on va profiter de notre invité de la semaine, Valentine. T'étais partie 6 mois au Canada, quelque chose comme ça ?
Ouais, c'est ça.
Alors, il marche sur la tête, il marche sur le côté, il marche pas droit, il marche comment, les Canadiens ?
Il marche comme des pingouins.
Il mange toujours autant de caribous ?
Les animaux sont sur la route.
Alors, t'étais dans une région francophone ou une région anglophone ?
C'était les deux, en fait. C'était la Nouvelle-Écosse. C'est une région, en fait, qui est pas forcément très connue. Et c'est, en fait, les deux langues, c'est anglais et français. Donc, c'est les deux. C'est là où il y avait... C'est là où sont réfugiés les Acadiens, en fait.
D'accord. Bon.
Double langue, d'où les signes de schizophrénie que je commence à détecter à ton retour.
Non, ça c'est juste personnel, ça. C'est pas spécialement les Canadiens.
On n'avait dit pas ça. Bon, et pour le coup...
On ne dévoile pas le secret médical, c'est ça.
C'est ça. Valentine, quelle différence notoire t'as notée dans la culture canadienne par rapport à ce que tu as toujours connu en France ?
L'heure qu'ils mangent. Ils mangent trop tôt.
Ils mangent trop tôt, c'est-à-dire ?
Ils mangent à 5h30.
Parce que le soleil...
17h30.
Ouais, 17h30.
Parce que la nuit arrive vite, peut-être ?
Ouais, mais c'est pas...
Pour le midi ?
Non, ils mangent plutôt le midi aussi, ils mangent plutôt vers 11h, 11h30 le midi, mais ils mangent très tôt, voilà.
Et du coup, est-ce qu'ils se couchent comme des poules ?
En vrai, ils se couchent tôt, oui. Ils se couchent tôt, ils se lèvent plus tôt, je dirais.
Alors peut-être que c'est le problème que toi, tu te couches trop tard.
On t'a fait la fête là-bas ?
Ouais, ça va.
Ils parlent majoritairement français ou anglais ?
Là où j'étais dans mon université, c'était francophone. Donc là où j'étais, en fait, je pense que ça dépend de la région en elle-même. Il y a des endroits où ils parlent plus français, d'autres plus anglais. Et quand c'est français, c'est de l'acadien. C'est pas non plus français. C'est parce qu'il y a
un bel accent.
Bel accent, ouais, avec un bel accent. Surtout que c'est pas le même accent que l'accent québécois. Encore un accent différent. Et le pire, ça a été de rencontrer quelqu'un de très gentil, mais qui avait un mix d'accent québécois et acadien. Alors là, c'est très simple, je ne comprenais rien du tout.
Alors, est-ce que tu veux bien me faire un exemple d'accent acadien ? Parce que j'identifie pas du tout, en fait.
Ah, malheureusement, je sais pas les faire, j'ai pas pris l'accent.
Quelqu'un autour de la table se reconnaîtrait l'accent acadien ?
Par contre, ils utilisent des mots que nous, on n'utilise plus en français, je pense. Non, il y a quelques
mots
qui sont des vieux français qui sont plus présents maintenant dans notre langue, quoi.
Ouais, par exemple, si vous dites à un acadien t'es drôle, il va très mal le prendre. Parce qu'en fait, ça veut dire t'es bizarre. Donc, c'est pareil, s'ils prennent leur char, ça veut dire qu'ils prennent leur voiture.
Ça, les chars, oui.
Ça, c'est...
Oui, bon, après, c'est vrai que ça fait partie du charme, je trouve, cette francisation de tout. Enfin, plutôt que de dire podcast, balado, diffusion, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit là-bas, mais j'aime beaucoup le terme balado, diffusion, moi.
J'ai pas eu l'occasion, mais ouais, c'est un certain charme, hein. Puis c'est compréhensible, donc ça va, c'est du moment, sauf quand il y a le mix des deux accents, là, par contre.
Ouais, puis il faut l'effort de franciser, les mots anglais, le franglais qui arrive. Et je pense à un exemple que j'ai vécu où je fais du golf et, on parle des bunkers, vous savez, les bunkers de sable. Eh bien, il disait la fosse à sable.
D'accord.
Et voilà, il ne parlait pas de bunker. Voilà.
Moi, ce qui me fait surtout marrer, c'est le fait de vouloir tout le temps traduire les titres de films. Et parfois, ça donne des choses mais hyper drôles. Mais je pense que ça vient aussi de la culture. Nous, enfin, francophones, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais là-bas, il y a un partage des cultures. Donc, ils sont obligés de revendiquer à fond leur culture francophone.
Ils vont un peu plus loin que nous.
Aussi, j'ai appris un truc récemment. S'ils font ça, c'est qu'il y a une loi qui les oblige à franciser les noms, carrément. Il y a une loi qui les oblige à faire ça.
Ouais, les titres de films, amusez-vous à regarder, c'est souvent très, très drôle.
De toute façon, moi, j'en ai marre avec tout ce qui est en anglais. Par exemple,
j'entendais ce matin, justement, il y avait deux académiciens qui étaient invités sur une... Parce que c'était justement par rapport aux quand on utilise les mots anglais. Oui. Et par exemple, pour le mot spoiler, c'est-à-dire...
Divulgâché.
Ça, c'est les Canadiens. Hein.
Mais en même temps, je trouve ça tellement explicite que c'est pas mal.
Parce que ça gâche et on divulgue. Absolument.
Donc, on divulgage le français, en fait, avec l'anglais.
Bon, après, c'est vrai que je pense à Ricardo, il y a des films à voir en, en doublage canadien et en doublage français, c'est pas la même version, hein.
C'est sûr. C'est, c'est pas la même compréhension.
Moi, je me rappelle les commentaires par rapport justement aux Canadiens avec leur vocabulaire. C'est un truc, mais dans les années 60-70, on disait quand il y avait toutes les voitures américaines. Je sais pas comment sont les voitures. Est-ce que c'est toujours aussi grand? Comme aux États-Unis.
Ils ont des gros pick-up.
Alors, ils appelaient ça les chars. Ouais. Et puis, les petites, c'était les fausses couches. Je me rappelle, c'est ce qui était dit. Hein. Je crois que c'est Robert Charlebois qui avait dit ça.
D'ailleurs, il était invité, Robert Charlebois, il est en France. Il était invité sur France Musique ce matin. Et j'adore l'entendre parler parce que c'est vraiment... l'accent est absolument...
C'est chantant.
Adorable. J'aime beaucoup.
Bon, et t'as réussi tes études au moins, Valentine?
Ouais,
parce
ouais,
que je te rappelle que t'es partie là-bas pour ça, quand même. Hein.
Oui, bon, c'est un peu secondaire, non?
Bon, alors après, à savoir, effectivement, est-ce que le diplôme passe en premier ou est-ce que l'expérience et le chemin de vie est plus important? Bonne question. Vous avez 3 heures.
Philosophie.
C'est d'ailleurs une différence entre la culture anglophone et la culture francophone, où la culture anglophone est vraiment axée sur les compétences et ce qu'on a acquis. Alors que, bon, je pense que ça vient de notre héritage très féodal, on aime bien les titres. Donc, on aime bien telle personne est, donc les diplômes, ce qu'il a. Enfin, en France, dans le système francophone, pas seulement en France, on est très axé diplôme et anglophone, compétences.
Alors,
ça commence à changer avec les startups.
Hein. Oui, mais ça me fait penser que, effectivement, moi, je connais plein de bac plus 5, bac plus 8 qui sont vraiment imbuvables. Et à côté de ça, il y a des gens sans diplôme qui sont vraiment très adorables et qui sont hyper compétents. Et il y avait un article récemment dans le Courrier de l'Ouest d'un chef d'entreprise, 43 ans, chef d'entreprise, mais illettré.
Bien sûr.
Non, mais voilà, on développe d'autres intelligences.
Je me souviens d'un truc comme ça, justement. Je ne sais pas si tu te souviens à la télévision. Il y avait eu toute une opération par rapport aux dissertations, aux rédactions, tout ça. Et il y avait des gens assez célèbres qui avaient fait ce genre de choses. Et... il y avait un académicien qui s'est pris une bulle, je sais pas, enfin un truc deux ou 3/20. Et puis François Cavanagh, qui était écrivain, qui
travaillait un peu provocateur, ce monsieur,
qui était un bon écrivain. Il avait fait les Rital, les Ruskov et tout ça, et il avait fait aucune étude, lui. Il avait eu 18/20. Mmh. Donc, je veux dire, ce qui veut pas dire que le diplôme, c'est pas forcément, ou même les études, c'est pas forcément.
C'est pas pour ça que t'es un imbécile.
Pour moi, le diplôme, ce n'est qu'une présomption de compétence. Hein.
Et justement, moi, je me souviens d'avoir écouté dans un colloque un Américain qui parlait justement des diplômes, des métiers, etc. Et il racontait que ça illustre ce que tu viens de dire, Ricardo, c'est que un chef d'entreprise, quand il emploie quelqu'un aux États-Unis, dans cette culture anglo-saxonne, américaine, qu'est-ce que tu as fait? La question, c'est pas quels sont tes diplômes, c'est qu'est-ce que tu as fait dans les 6 derniers mois? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, c'est ça la différence d'approche, en fait.
Alors, moi, je me souviens, mon père était artisan, il avait des apprentis, et des apprentis très, très, très doués, et qui ont loupé leur CAP parce que. Il rentrait pas là-dedans et c'était des futurs artisans exceptionnels.
Mais toi, après ton séjour au Canada, est-ce que tu as changé d'optique? Je sais pas, est-ce que tu savais avant ce que tu ferais plus tard ou est-ce que ça modifiait quelque chose dans ta perception de ton avenir proche?
Je savais pas forcément ce que je voulais faire après et je sais toujours pas forcément ce que je veux faire après.
Bon, on savait au moins qu'elle avait envie de nous revoir.
On va essayer de t'aider.
Bon.
Alors, moi, ça me fait penser à des vidéos qu'on trouve parfois sur YouTube. Et il y en a une assez satirique qui disait « Qu'est-ce que vous pourriez amener à l'entreprise ?» Et la vidéo ça s'intitule « La stratégie de l'échec ». Et le candidat répond « Une pomme ». C'est absurde, mais moi, ça me fait rire. Bon, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale que je dédicace à Jacqueline, puisque c'est une chanson interprétée par Nathalie Dessay, et c'est une reprise de Nougaro avec chanson pour Marilyn. À tout de suite.
Marilyn, le film, le scénario qu'il elle te faut tourner de nouveau. Et dans quel néant s'illumine le néant de ton Marilyn? Avais-tu donc le cœur si
c'était Nathalie Dessay avec Chanson pour Marilyn. Alors l'indice, là précisément, c'est Marilyn qui a fait la promotion de notre personnage mystère. Jacqueline, toi qui as trouvé, est-ce que tu te rappelles comment elle a fait la promotion de notre personnage ?
Non, je ne m'en souviens pas.
Ah, Jean-Jacques, ça l'a marqué.
Bah oui, forcément, il y a l'image là.
Alors vas-y.
Bah, elle disait que on lui posait la question, mais comment vous êtes en pyjama ou en robe de chambre et tout ça pendant votre nuit ? Et elle disait non, je ne porte qu'une goutte de Chanel.
De Chanel, c'est vrai. C'est
numéro 5 de Chanel.
Comme ça, c'est balancé. Il n'y a plus de personnage mystère.
Ouais, non, mais sur ça, j'avais trouvé sur Marilyn. L'indice Marilyn m'avait amené aussi au personnage.
Donc, voilà. Autrement dit, notre personnage mystère, il n'est plus à découvrir. Hein, il est dévoilé. Donc, c'était.
Gabrielle Chanel.
Dit.
Coco.
Alors, pourquoi Coco?
Ah, alors.
Ça, c'est une bonne question. Pourquoi?
Non, j'ai pas la réponse.
Parce qu'elle a le chic.
Alors, non.
Le look.
Alors, tout simplement parce qu'en fait, elle a commencé par du cabaret et elle a interprété une chanson qui s'appelait Où est-ce qu'il est le coco? Et c'est resté ça a été son petit surnom de scène et c'est resté derrière. Donc, Coco Chanel, alias Gabrielle Chanel.
Il y a eu un film récemment
avec Audrey Tautou.
Oui,
exactement.
Et je ne sais plus si c'était Vincent Lacoste ou Pierre Niney, qui jouait le rôle le masculin.
Alors là, c'est toi le cinéphile, hein.
Je la confonds souvent les deux. Je trouve que les deux se ressemblent beaucoup.
Bon. Et pour le coup, donc Coco Chanel, ça te parle un petit peu, Valentine ?
Oui, oui, bien sûr.
Ça y est ?
Quand même, oui.
On n'a pas les moyens de se payer ses costumes.
Alors, on t'a pas entendu, Josiane, mais
c'est tailleur.
Ouais.
dis malheureusement, on n'a pas les moyens de se payer ces costumes.
Oui, alors que sincèrement,
mais elle a été beaucoup copiée quand même. Hein.
Oui,
ça a alors, aidé beaucoup.
Le fait est que elle est partie de rien, comme tu disais tout à l'heure, Josiane, et elle était, elle est née dans une famille à Saumur très modeste, hein, un père commercial et une maman couturière, une maman qui a eu 5 enfants avant 32 ans, qui est décédée à 32 ans, et du fait, elle est allée en orphelinat, Coco Chanel, en Corrèze.
Et tu fais un lien entre la natalité et le décès? Non, je regarde.
Eh bien, là, en l'occurrence, c'était mis en question avec, en plus, des maladies respiratoires de l'époque, la tuberculose. Et donc, voilà, un petit destin familial comme on ne les souhaite pas. Ouais. Mais ça lui a forgé un caractère, faut croire, puisque à l'orphelinat, elle faisait de la couture et elle regrettait de n'avoir que du noir, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à faire des costumes pour des cabarets et l'armée, je crois.
Je vois pas pourquoi, vu que le noir est une très belle couleur. Mais... je dis ça, je dis rien. Ah bah oui, la preuve.
Non mais après, c'est monotone à un moment quand même. Bon, c'est bien aussi de varier.
Et chérie. Mais pour pas noircir le tableau, justement, on lui prête justement à l'époque, je vais pas revu sur son période nazie, des relations, enfin non je... Oui. Alors, avec ses amours, justement.
Ouais.
Des noirs. Non, je connais pas.
Je parlais des. On prêtait une relation amoureuse avec un soldat allemand.
Ah, je ne sais pas que. Arletty, oui, mais elle, non. Coco Chanel aussi. Oh, de toute façon, elle était. Oui.
Il y a eu quelque chose, mais je ne me souviens plus trop. Mais,
ouais,
mais
si, possible. Si.
Bon, après, récemment, on a vu des afro-américains devenir nazis. Hein. Ce n'est pas incompatible.
Il faut de tout pour faire un monde.
Bon, dans tous les cas, effectivement, c'est un personnage angevin, et ça, franchement, je l'avais totalement occulté. C'est une découverte pour moi.
Tu avais bien choisi, c'est bien. Tu fais local. Là.
Exactement.
Tu fais rayonner la région.
Ouais. J'avais le choix entre Coco Chanel ou Madame Claude.
Elle aussi, elle est de Saumur.
Alors, elle est dans Danger, Madame Claude.
Ah oui.
Danger, D-A-N-G-E.
Donc, bon, peut-être un prochain invité
comme
mystère.
Comme quoi, nos régions du talent.
Bon. Je sais pas comment il fait pour rebondir comme ça.
J'ai du mal à rebondir, moi.
Je sais pas si les auditeurs, ils se marrent, mais nous, au moins, on rigole.
Bon, je vous propose de faire une nouvelle petite pause musicale, et que je dise pas de bêtises. C'est une chanson, pour le coup, de Jacques Dutronc, Mini, Mini, Mini. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Et là, directement en lien avec Coco Chanel. À tout de suite.
Tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini jupe et mini moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini, mini, ça manque d'air. Mini, mini, mini. Mini, 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 mini. Moi je préfère les maxi, maxi moque et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute. Il est maxi docteur Schweitzer. Maxi, maxi, ça respire l'air. Maxi terre et terre maxus. Maximum et maxibus, maxister et thermaxus, maximum et maxibus, maxister.
Oh là 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 là. Donc c'était Thomas Dutronc avec Mini Mini Mini. Alors Mini Mini, ça faisait référence.
Jacques Dutronc là.
Oui, j'ai dit quoi? Oh pardon, c'était Jacques Dutronc, excusez-moi. Effectivement, ça faisait référence à la mode qui dans les années 60 venait vers la mini-jupe et Coco Chanel était totalement opposée à raccourcir ses jupes qu'elle a toujours laissées au-dessous du genou. Donc tailleur Chanel, si c'est au-dessus de la jupe, c'est pas un vrai tailleur, hein, on va dire ça. Pour le coup, moi je suis curieux de savoir comment Jacqueline, Josiane vous habillez dans les années 60.
En super mini jupe. Je me souviens avoir une petite jupe écossaise à l'époque. J'avais trouvé des chaussures jaunes avec un petit pull jaune. Oh là là, c'était formidable.
C'était pas un kilt écossais, non?
Non.
Bon, on a vu des photos de Jean-Jacques aussi en mini jupe, hein, mais.
Pour tous nos auditeurs les plus sages, on les enverra la photo.
Là, il
ne
faut pas le cacher. Là.
Oui, puis à l'époque, quand je travaillais avec du 10 cm de talon.
Ouf.
Aiguille.
C'est pas facile, ça.
En mini-jupe.
Mmh. Bon.
Alors, les plaques d'égout avec les talons.
Chez Grollo, on avait la rue Corneille qui était en pavé. Mmh. Et quand on avait eu des jeunes qui avaient subtilisé des choses qui ne leur appartenaient pas, on les coursait avec pour les rattraper en talons aiguilles et mini jupe. J'ai quelques souvenirs assez épiques.
Bon. Mais est-ce que ça a permis une augmentation de la vente des disques?
Oh bien sûr. Ah,
oui. J'imagine. Oui.
Oh. Surtout quand il fallait qu'elle monte sur une échelle pour attraper les trucs un peu en haut.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Valentine, tu préfères les années 2000 ou les années 2020 ou les années 60?
Pas trop les années 60.
Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect n'a plus trop d'importance. C'est plus un code social comme ça l'a été. Hein. Et je sais pas si c'est un bien ou un mal, mais bon, c'est le monde qui change. Faut vous changer avec. Jean-Jacques? Tu voulais nous faire une petite chronique, deux chroniques cette semaine, une chronique UFC, une chronique pour un musicien, je crois. Non, oui. Non, j'ai des bêtises d'ailleurs.
C'est un compositeur.
Oui, mais c'est une chronique pas UFC, mais une chronique publicité.
Alors, attends, j'ai trois choses. Je commence par quoi?
Eh bien, fais-toi plaisir.
Allez, la chronique UFC. L'alimentation, conserver des produits frais. Au retour des courses, quand on vide les sacs d'aliments, on met beaucoup au frigo. C'est parfois une erreur, car certains produits frais supportent mal le froid. La règle principale, il vaut mieux ranger au frigo tous les aliments emballés ou non qui étaient réfrigérés en magasin. C'est le cas pour la viande, le poisson et les produits laitiers frais, y compris le fromage, ainsi que tous les produits industriels, les plats préparés. Les fruits. Mettre les fruits au réfrigérateur permet de les préserver un peu plus longtemps, mais au détriment de leur saveur et de leur mûrissement naturel. Le mieux est de ranger les fruits dans un endroit fermé pour les conserver et dans un récipient à l'air libre pour achever de les faire mûrir. Il faut savoir aussi que certains fruits, comme les kiwis, supportent mal le contact avec d'autres à cause de l'éthylène dégagé par les pommes, bananes ou avocats par exemple. Les légumes. La plupart des légumes, crus, se garderont mieux dans un endroit plutôt frais et sombre, mais pas au réfrigérateur. En tout cas, il est préférable de cuisiner rapidement les légumes verts, y compris les carottes, pour éviter leur dégradation et la déperdition des vitamines. En revanche, les pommes de terre, oignons ou tomates se conservent plus longtemps, mais surtout pas au frigo. Les œufs. Les œufs ne sont pas au frais dans les magasins. Il n'est donc pas indispensable de les ranger dans la porte du réfrigérateur, comme y invite le casier spécial. Des essais de ont montré que les œufs conservés pendant 2 semaines à l'air libre étaient dans le même état que ceux placés au frigo.
Merci Jean-Jacques. Bon, et pour le coup, quand les œufs commencent à éclore, c'est...
Ouais,
c'est... Bah, à ce moment-là, faut c'est que ça n'a pas resté un peu trop longtemps.
Ça fait du steak haché.
je ne cautionne pas.
Et le journal, tu le ranges où? La bonne vieille blague, tu le mets au frigo pour voir les news fraîches.
Voilà. On a retrouvé
Ricardo.
La blague
de 3 ans. Non mais ça va là.
Non mais...
On sait qu'il est là, là.
Il a besoin de décompresser, Ricardo.
On va enlever la pile.
Bon. Et donc, pour le coup, effectivement, tout ce qui est produit frais, aujourd'hui, on nous vante le frigo qui doit toujours être plein, bidule, machin, mais et c'est pas toujours indispensable.
Pas toujours.
Hein. En revanche, il faut quand même tout ce qui est viande, produits laitiers, là, il n'y a pas de question à se poser. Et tu parlais des œufs, mais des produits avec à base d'œufs transformés, faut aussi les mettre au frigo.
Pareil, quoi. Si tu as fait un gâteau et où il y a oui. de l'œuf et tout ça, il vaut mieux le mettre au frigo. Hein.
La quiche qui reste 15 jours sur le bord du plan de travail, moi, j'y touche plus. Hein.
C'est-à-dire que dans un appartement, tu n'as pas énormément de rangement pour les produits frais et tout le reste. Alors, tu es presque obligé de mettre dans le bar du réfrigérateur. Hein.
Mm. Ça, c'est tout à fait raison.
Parce qu'un balcon en plein soleil, tu peux pas aller foutre ça.
Et j'ai l'impression que dans l'architecture, ça revient les pièces type cellier ou des
un
choses
peu sombre,
comme ça.
Tu veux dire un petit peu fraîche.
Bah oui, pour le coup, qui échappe à ça, parce que c'est vrai qu'on a tellement optimisé notre surface habitable qu'à un moment, il y a des choses qu'on
Moi,
peut plus faire.
Moi, je me souviens dans notre maison, je veux dire sous l'escalier, le crochet avec le jambon qui était dessous.
Ah, oui,
quoi.
Oui.
Bon. Mais la chronique est pertinente parce que c'est vrai que le réflexe c'est de mettre tout dans le frigo. Et c'est pour ça que c'est intéressant de discerner, de
oui,
discerner les choses.
On ne sait pas où les mettre.
Mais oui, bien sûr, on ne sait pas où les mettre.
Pas beaucoup de place.
Et trouver des objets, enfin des récipients, pas pour les fruits. Moi, personnellement, à la maison, on a pas mal de
panières ou
de fruits et légumes. Et on a trouvé. Alors le magasin, je ne dirais pas, mais on a trouvé des bacs en bois où on peut mettre différents fruits. Ça prend pas trop de place et on a mis du temps à le trouver, mais on l'a trouvé. Et finalement, les fruits, ça, là, sont dans la phase de mûrissement, comme tu le disais, et tranquillement, ils sont à l'air, mais bien protégés. Dans,
Alors si je pense à un endroit auquel je pense pas obligatoirement, c'est ceux qui ont la chance d'avoir un local cave.
Ah oui, une cave, oui, bien sûr. Oui.
Parce que là, les fruits, les pommes, les choses comme ça.
Surtout pour les conserver longtemps.
Voilà.
Non, ce qui m'a le plus surpris, moi, c'était les kiwis, comme quoi ça se met pas avec les autres fruits. Je savais pas du tout qu'il y avait certains fruits qui n'allaient pas avec les autres, parce que j'avais déjà l'habitude de pas mettre mes fruits dans le frigo, mais je les mettais tous dans une corbeille, quoi.
Et puis les pommes, ça fait mûrir.
Les bananes aussi.
Les bananes avec le contact avec d'autres fruits, c'est. Oui. C'est pas mortel.
Oui, les pommes accélèrent le mûrissement des autres fruits.
Oui, c'est vrai.
Oui.
C'est ça l'idée.
Donc après, l'idée, c'est de ne pas provoquer un mûrissement trop rapide pour pas que ça pourrisse et éviter le gaspillage alimentaire.
Il y a un chanteur, ça me fait penser à lui. Un chanteur qui...
Attention, roulement de tambour.
qui associait justement, qui faisait une métaphore avec le mûrissement des pommes, et il disait justement le problème des banlieues, c'est pas la banlieue, c'est comme les pommes, quand on les entasse, ça pourrit. Donc c'est plus un problème de fréquentation et de, voilà, ouais. Je trouvais que l'analogie, elle était belle, quoi.
Bon. Est-ce que tu veux enchaîner tout de suite?
Alors, ouais, j'ai une rubrique auquel je tiens particulièrement, enfin, une rubrique, non, c'est une rubrique exceptionnelle. C'est un hommage à un artiste, à un compositeur américain, qui est décédé il y a quelques mois maintenant, hein, et qui a vraiment fait des chansons formidables, qui ont été souvent reprises en français. Et puis on va commencer maintenant. C'est un hommage à Burt Bacharach. Oui, si j'ai tenu à pouvoir rendre hommage à Burt Bacharach, c'est qu'il a une énorme importance dans la chanson américaine. Oui, américaine, mais du niveau mondial, parce que en effet, une grosse part des grands succès aux États-Unis n'arrive pas jusqu'à nous, car trop Amérique, en fait, un peu. En fait, peu sur la multitude des standards américains de la soul, de la country, du folk, oui, peu franchissent l'Atlantique et leurs interprètes pareillement. Mais Burt Bacharach a su se faire écouter de pas mal de monde, y compris dans les ascenseurs. Alors on commence. Dionne Warwick, Don't Make Me Over. Dionne, oui, je me permets de l'appeler Dionne, était, je le rappelle, la cousine de Whitney Houston. Et l'interprète la plus emblématique, justement, des compositions de Burt Bacharach. Oui, je l'appelle aussi Burt, tiens. Allez. On va s'amuser à entendre aussi quelques extraits des adaptations en français.
Don't make me over.
Ouais, pour cette première chanson, Nancy Holloway fit quelques reprises de grands standards anglo-américains dans les années 60, comme pas mal de chanteuses et chanteurs de l'époque. Nancy Holloway, t'en vas pas comme ça.
T'en vas pas comme ça. Pas comme ça.
Une deuxième version, celle du groupe à succès de six frères et sœurs malgaches dans la deuxième partie des années 60, les Surfs. Eh, t'en vas pas comme ça aussi.
T'en vas pas comme ça, sans me donner la moindre chance. Comme ça, en oubliant mon existence.
J'arrête ça tout de suite avant que Valentine tombe amoureuse de Jean-Jacques. Moi.
Alors, Dionne Warwick, Walk On By, encore elle, avec bien entendu la version la plus connue.
Walking down the street, and I start to cry each time we meet. Walk on.
Ça a cartonné.
En français, voilà ce que ça donnait avec Richard Anthony. Oui, va plus loin, beaucoup moins connu. Mais...
Tu ne m'aimes plus et que c'est la fin. Tu m'as déçu, va plus loin. Va plus loin. Ne crois pas que je vais en mourir si tu t'en vas. Je sais bien.
Bon, là, j'aurais pu choisir l'interprétation de Dionne, mais j'ai préféré vous faire entendre celle de Sandy Shaw. Vous vous souvenez de la chanteuse aux pieds nus qui gagna le prix de l'Eurovision en 67 avec la chanson, énorme succès, Puppet on a String? Sandy Shaw, there's always something there to remind me.
Personnellement, je me souviens pas. Hein.
Along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Always something there to remind me. I was born to love you and I will never be free. You'll always be a part.
Et bien évidemment, vous connaissez la version incontournable que connaît Josiane, d'Eddie Mitchell, toujours un coin qui me rappelle.
Seul le long des rues où nous allions tous deux avant, à chaque pas je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui reste la vie de ma vie.
Encore un incontournable, la chanson tirée du film Butch Cassidy et le Kid avec Paul Newman et Robert Redford, dont Burt Bacharach a fait la musique. Et oui, il a également composé plusieurs films à succès, de musique de films à succès. Pour moi, il me fait penser à Michel Legrand, même si ce grand compositeur français a souvent traversé l'Atlantique, car beaucoup demandé par le cinéma d'Hollywood, alors que Burt Bacharach, sauf erreur de ma part, n'a jamais travaillé en France. B.G. Thomas, Raindrop Keep Falling on My Head.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just didn't.
La version de Sacha Distel a fait à l'époque un grand succès. Toute la pluie tombe sur moi.
Toute la pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop épais. étroit, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits.
Et pour terminer ce rapide et très incomplet panorama de l'œuvre de Burt Bacharach, trois grandes chansons, maintes fois reprises par les plus grands interprètes de la planète. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Baby, this guy's in love with you. The Carpenters, Close to You.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you.
Je dois vous dire que bien d'autres titres auraient pu être écoutés, mais je me contenterai du temps qui m'est imparti de citer pour ceux qui s'en souviennent. Par exemple, le célébrissime What's New Pussycat de Tom Jones. C'était tout petit tour d'horizon, libre à vous d'entrer ou pas dans l'univers de Burt Bacharach.
Bon. C'était la séquence souvenir-souvenir.
Ouais. Hein,
et effectivement, ça fait du bien à réécouter ces petits morceaux-là. Ça nous replonge dans des années que moi, je n'ai pas connues, mais...
Ça, c'est vrai.
Mais non, c'est...
Tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Voilà, mais ça reste des monuments quand même.
Mais ce que je voulais préciser, c'est sûr, c'est que ce que je disais depuis son décès, il y a quelques mois, j'entends des pubs maintenant. Ils adaptent des musiques d'accompagnement... de Burt Bacharach, j'en ai reconnu plusieurs là.
Bon, ok. Bon, alors, je vais pas être dans la même lignée, parce qu'on va être avec une chanson française. Si je vous dis Nicoletta,
oui.
Voilà. Si je vous dis 1971, alors pour Coco Chanel, c'était la date de son décès, malheureusement. Mais Nicoletta nous a chanté Mamie Blue.
Mamie Blue.
Voilà. Donc, on l'écoute tout de suite et on se retrouve tout de suite après.
Oui.
Oh,
sans t'embrasser, sans un regard sur le passé, le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, on m'appelait. Je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais.
C'était Nicoletta avec Mamie Blue. Bon, une chanson, un classique, celle-là aussi, hein, et on disait hors micro qu'elle était reprise par de multiples interprètes, si bien qu'on ne sait plus lequel choisir à la fin. On va arriver au terme de cette émission avant la dernière chanson. Jacqueline, je crois que tu avais des informations culturelles à nous communiquer.
Oui, effectivement, au musée d'Angers, au musée des Beaux-Arts plus exactement, une présentation d'artistes angevins, qui est une donation de Bertrand, et c'est en fait, ce sont des peintures que sur la ville d'Angers. Donc ça me paraît intéressant de voir les peintres qui ont fait des peintures après notamment les bombardements de 1944 sur la ville d'Angers. Donc c'est une exposition qui est en cours déjà depuis le mois de novembre, mais qui va jusqu'au 18 juin. Voilà, donc il y a une trentaine d'œuvres caractéristiques de cette collection, généreusement données par Monsieur Henri Bertrand. À voir et à découvrir.
Bon, merci Jacqueline pour cette information. Il y a des amateurs de peinture autour de la table. T'es trop loin du micro, Josiane, on t'entend plus, hein.
Justement, ça fait
du bien. On fait une pause de Josiane, donc cette semaine. Bon, les arts plastiques, ça, c'est des choses que tu as fait récemment à l'école ou c'est plus du tout dans les matières travaillées, ça, Valentine?
Non, pas trop d'arts plastiques. Après, de temps en temps, je regarde les peintures, mais après, ça dépend. Il y a des trucs que j'ai un peu de mal à comprendre, mais de temps en temps, pourquoi pas? Ouais, j'aime bien regarder les peintures. Voilà.
L'art, ça ne se comprend pas.
Oui.
Non, mais elle a raison de dire ça. Je ne peux pas comprendre, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je suis impressionné par des gens qui qui parlent sur la peinture. J'aime bien entendre les gens qui parlent, qui expliquent la peinture, parce que comme ça, tu apprends, quoi. C'est-à-dire, un tableau que tu aimes, pourquoi je l'aime, j'en sais rien.
Bah justement, je pense que c'est ça la magie de la chose, et chacun a son interprétation et sa vision de la chose. Mais c'est vrai que ce qui peut être intéressant dans ce que tu dis, c'est expliquer la vision
mais
qu'avait le peintre.
Mais intéressant dans ce que je dis, moi, qu'est-ce qui...
À la différence de certaines personnes, tu veux mon regard, c'est ça?
Non, mais c'est vrai, comprendre, j'aime quand même... Je serais pas forcément d'accord, d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que y en a, j'ai des explications sur certaines peintures. Il y a une émission qui a lieu, tu sais, le dimanche soir, je crois, sur Arte, où ils expliquent. Et c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a des moments, ça me passionne, surtout quand je connais le tableau. Je veux dire, quand je regarde ça, je dis, ah ouais, quand même. J'aime bien quand même qu'on m'explique.
Mais comme je dis, l'explication, c'est avoir la vision du peintre pendant qu'il le faisait. Récemment, j'ai fait l'expo Monet-Mitchell. Bon, Monet, j'adore, comme Mitchell, je suis moins dans son univers parce que je trouvais que c'était souvent des pâtés de peinture empilées. Ça me parlait moins. Mais justement, il y avait des guides qui racontaient son histoire, sa vision de la chose, pourquoi, et en fonction de ce qu'il disait, ben en effet, comme tu dis, on voit le tableau différemment, on voit le parcours du peintre à travers ses différentes peintures, et voilà, ça m'a pas fait forcément aimer Mitchell, mais c'était intéressant.
Tu vois, ça me fait le même effet qu'une chanson, tu sais, le nombre de chansons en anglais qu'on a écoutées, on savait pas ce que ça voulait dire. Et puis d'un coup, tu veux dire que t'as une explication, t'as la traduction, tout ça, et tu te dis pourquoi ça avait tant de succès. Bah ouais, faut voir ce qu'il racontait. Les chansons de Bob Dylan ou des chansons. Tu comprends? Je veux dire que même les chansons des Beatles, alors il y a des fois les Beatles, souvent c'est des textes assez. Pas forcément mauvais, la musique est meilleure, quoi. Mais je veux dire que c'est vrai qu'on a souvent surévalué les chansons anglaises, hein, par rapport au texte en réalité, parce que je préfère les chansons anglaises, mais je veux dire que je sais même pas ce que ça veut dire, quoi. Alors qu'il y avait les textes français qui étaient bien meilleurs, quoi.
Oui, mais moi je pense que c'est comme un livre ou comme une peinture. Souvent les auteurs disent je livre ça et c'est à chacun de s'approprier. Enfin, je pense que en fait ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre est une interaction. Enfin, ça c'est une interaction entre celui qui le regarde ou qui le lit, et puis si c'est un livre, et puis le créateur lui-même. Et c'est ce va-et-vient qui est intéressant, en fait. Hein.
C'est valable pour tous les arts. La musique, c'est pareil. Ouais. Pourquoi on aime telle ou telle chanson? Impossible de le définir exactement. Soit ce sont les paroles qui vous ont touché, soit c'est la musique. Mais pourquoi plus une musique qu'une autre? Personne n'est capable de le dire en définitive.
Et quand tu te surprends à chantonner ou à siffler un air, et puis tu te dis, qu'est-ce que c'est que cet air que oh là là, tu te dis que je suis bien tombé bien bas. Puis en fait, tu dis, non, j'aime... Parce que c'est une chanson qui me parle tout de suite et j'ai envie de la chanter, quoi.
Alors, je vais rebondir sur votre propos. C'est vrai que les chansons parfois sont surprenantes parce que les artistes sont pas toujours la plus belle voix du monde, mais malgré tout, il passe quelque chose.
Oui, il y a une accroche, quelque chose.
Et là, je vais vous faire découvrir pour le dernier morceau musical de l'émission le chanteur Yves Jamais, qui a une voix très rauque et qui va chanter. Qui a chanté d'ailleurs, il va pas chanter pour vous. Il a
on
déjà enregistré. Donc je vous fais découvrir la chanson Caresse-moi et je vous laisserai me livrer vos impressions juste après. À tout de suite.
Le vois-tu venir? Ce dimanche avec sa gueule moche, ce cancre-là qui tourne autour de ce jour triste comme un son de cloche. Autant suspend mes heures de vol, éprouve à mon cœur de patine quand la déprime me racole. Que ces mots de passe me chagrinent. Entends-tu la marche funèbre de cette semaine qui crève? À cette détresse, une trêve. Poser ma bouche sur tes lèvres. Caresse-moi, caresse-moi. J'ai le ventre gonflé de larmes. Ce soir, la vie me rétame. Caresse-moi, caresse-moi. Caresse-moi, caresse-moi. Ne laisse pas ce jour vieillir sans poser avant qu'il n'expire tes mains sur moi, caresse-moi.
un dimanche comme tant d'autres qui déjà me vide le cœur. Une petite bête noire se vautre impunément sur mes humeurs. J'ai la déprime à fleur de peau et l'automne dans les entrailles. Pas une bière placebo ne peut soigner ceux qui m'entaillent. Et toujours la marche funèbre de cette semaine qui crève. À cette détresse, une trêve. Poser ma bouche sur tes lèvres. Caresse-moi, caresse-moi. J'ai le ventre gonflé de larmes. Ce soir, la vie me rétame. Caresse-moi, caresse-moi. Caresse-moi, caresse-moi. Ne laisse pas ce jour vieillir sans poser avant qu'il n'expire tes mains sur moi. Caresse-moi. Cette semaine qui crève, à cette détresse, une trêve. Poser ma bouche sur tes lèvres. Caresse-moi, caresse-moi. J'ai le ventre gonflé de larmes. Ce soir, la vie me rétame. Caresse-moi, caresse-moi. Caresse-moi, caresse-moi. Laisse pas ce jour vieillir sans poser avant qu'il n'expire tes mains sur moi, caresse-moi.
Donc c'était Yves Jamais avec Dimanche, caresse-moi. Qu'en avez-vous pensé, les amis?
C'est nul.
N'importe quoi.
Bon, les avis divergent, je vois.
La musique est belle et on comprend toutes les paroles.
Bon. J'avais l'impression qu'elle attendait des caresses, moi, Josiane.
Diverge en un mot, j'espère. Mais non, très belle chanson, très belle chanson. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Moi aussi, j'ai beaucoup aimé.
Bon, c'est un artiste effectivement là qui a été détecté depuis une dizaine d'années, qui a sorti un nouvel album et il a vraiment des textes très travaillés. Je vous invite à le découvrir et je pense que dans n'importe quelle médiathèque vous pourrez l'emprunter. Et, c'est accessible voilà facilement. Yves Jamais avec un T à la fin. J-A-M-A-I-T. Bon, les amis, on va devoir se quitter. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour cette 14e émission de la saison 4?
Ben, c'est toujours aussi intéressant de venir, nous ici, tous les 15 jours, nous retrouver autour de différents thèmes. C'est vraiment très sympa.
Ah, j'espère surtout que les auditeurs ont du plaisir à nous écouter quand même.
S'ils ont eu autant de plaisir chez eux que nous aujourd'hui, ils ont dû bien rigoler.
Ouais. Marc, des choses à ajouter?
Moi, on a parlé de mini jupe hein, avec oui. Coco Chanel. Bon, j'ai une petite citation à vous donner, à vous partager. C'est les statistiques. C'est comme les mini jupes. Ça ouvre des horizons, mais ça cache l'essentiel.
Bravo.
Alors celle-ci, je ne l'avais pas. Merci Marc. Ça peut me faire la semaine, ça. Bon, Valentine, merci d'être venue nous rendre visite, ça faisait longtemps.
Hein. Oui, en direct.
Bah, merci à vous d'avoir bien voulu m'accueillir.
Tu reviens quand tu veux. Hein. Bon, dans tous les cas, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour une nouvelle émission d'Il est l'heure, Monseigneur, sur Radio G. Merci toute l'équipe et je vous dis à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Merci, à bientôt.
Bonne semaine à tous.
On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes. Il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait.
Chouchi. 101.5 FM.
Mic check.